Ce n'est pas pour prolonger la publicité concernant les livres, mais je me suis dit, pour commencer cet enseignement, de vous lire une petite histoire réelle, vraisemblablement, que le père Bernard Pérouse a publiée dans son livre Dieu est humour, premier volume, avec Marie-Ange Pompignoli. Un jour, le curé organise au cours d'une Eucharistie une danse d'enfants autour de l'autel. Une paroissienne vient le trouver à la fin de la messe pour lui dire son désaccord. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable, monsieur le curé. C'est un grand manque de respect. N'oubliez pas la présence du Saint-Sacrement. 2 jours plus tard, la même personne rencontre à nouveau son curé. Vous savez, monsieur le curé, hein, j'ai beaucoup repensé à cette histoire. Hein. Je trouve que c'est vraiment un grand manque de respect pour le Saint-Sacrement. Mais, objecte le curé, que s'est-il passé à Cana pendant les noces? Les gens ont bien dansé devant Jésus. Devant Jésus, peut-être, répond notre paroissienne, mais pas devant le Saint-Sacrement. Eh bien, je ne sais pas si hier soir, ceux qui étaient à la veille ont tous dansé de joie, ou encore hier, pendant la messe. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous se reconnaissent bien dans la voix de cette dame, une paroissienne très pieuse, pratiquante sûrement. Alors ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire un exercice tout de suite pour savoir si vous avez compris la différence entre le Saint-Sacrement et Jésus, hein, dans la messe. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre un peu plus, mais non, enfin, de cette retraite, de ces fêtes du cœur de Jésus que nous avons célébré ici et que nous allons continuer à célébrer les jours qui viennent, les semaines, les mois aussi, donc durant toute l'année, parce que ce cœur de Jésus est dans le Saint-Sacrement, bien sûr. C'est Jésus lui-même vivant qui se montre à nous sans cesse. Alors, je ne vais pas faire un résumé, une synthèse de tout ce qui a été dit ici depuis jeudi soir. Je vais me contenter simplement de rappeler sûrement plusieurs points que ceux qui ont été là depuis le début ont entendus. Et peut-être aussi, ça va être voilà, comme un petit résumé quand même pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, soyez les bienvenus. Alors, le thème de ces retraites a été donc l'amitié, comme vous avez entendu. Je vais vous parler un peu de comment choisir Jésus comme ami et plutôt ça va être pourquoi le faire. Alors, il s'agit d'une expérience personnelle, bien sûr, dans cette amitié avec le Seigneur. Entrer dans sa familiarité, ce n'est pas quelque chose de compliqué, en fait. Et il y a un certain Père Matteo, que vous voyez, que nous voyons représenté sur la fresque dans la chapelle des Apparitions, en bas à droite, à genoux, nous regardons un prêtre qui a fait une expérience mystérieuse mais très simple et très profonde dans cette chapelle en 1907, quand il est venu prier probablement pour sa guérison ou alors tout au moins pour finir sa vie malgré sa maladie. Il avait l'âge de 32 ans. Et en fait, durant cette prière, il a été tout de suite guéri sur place. Hein, et le jour même, il a reçu une intuition. Il était déjà religieux dans une congrégation des 5 cœurs, hein, de Jésus et de Marie. Donc, il connaissait déjà le cœur de Jésus, mais il a approfondi un peu plus ce message, ces révélations que Marguerite Marie nous avait données. Et il s'est rendu compte que le désir du Seigneur, c'est de venir vraiment se faire tout proche de nous, jusqu'à habiter chez nous, Et tout à l'heure, on a eu aussi un texte, hein, Jésus qui frappe à la porte, c'est une image biblique, mais aussi une promesse que Jésus avait adressée à travers Marguerite Marie à tous ceux et celles qui acceptent d'accueillir une image de son cœur dans la maison, chez soi, dans son foyer. Alors je vous le dirai tout à l'heure, je vous citerai cette promesse du Seigneur. Mais à partir de cette expérience, le Père Matteo s'est dit, tiens, il faut passer à l'acte, hein, il faut être concret avec Jésus, il faut vraiment l'inviter chez nous. Parce que finalement, c'est ça, le choisir comme ami. Mais c'est plus qu'un ami, il est le roi en fait, c'est notre maître en même temps. Et il faut vraiment lui faire une place chez nous. Et du coup, il a réfléchi un peu et il a pensé que ce Seigneur qui est un roi doit régner dans nos familles, concrètement. Donc, lui trouver une place, comme un trône, dans notre foyer. Donc, lui donner une place visible par tout le monde. Et cet acte, hein, de laisser Jésus à la première place, il l'a nommé intronisation. Mettre Jésus comme sur un trône chez nous. Alors, je vais vous lire simplement un petit passage, parce que mon enseignement ne va pas être porté que sur cette expérience, cette proposition du Père Matteo, mais ça va nous aider quand même à comprendre l'importance de cette place, de ce choix que nous sommes invités à faire tous pour accueillir Jésus chez nous. Pas que dans la maison, pas que d'une manière visible, mais au fond de notre cœur. Il est vrai qu'une danse peut exprimer une grande familiarité avec le Seigneur, hein, une grande simplicité, un grand amour même. Mais aussi, ça peut rester quelque chose de très superficiel, n'est-ce pas ? Alors que le Seigneur veut vraiment habiter profondément notre cœur d'abord et aussi le cœur de chaque membre de notre famille. Voilà ce que Père Matteo disait pour expliquer l'importance de cet acte d'accueil de Jésus dans notre maison, comme d'ailleurs il a été accueilli dans des différentes maisons, hein, durant sa vie terrestre. On peut se rappeler, bien sûr, pas seulement la maison de Nazareth, évidemment, où Marie et Joseph l'ont vraiment accueilli chez eux, et bien sûr, pas seulement cette maison de Zachée, pas seulement la maison de Matthieu, mais aussi et surtout, Père Matthieu nous rappelle la maison de Béthanie, là où il venait souvent se poser, se reposer, se ressourcer dans la maison de qui ? Marthe, Marie et Lazare, qu'il aimait, il les aimait, Jésus. Et on voit bien, on se rappelle à quel point, quand Lazare est mort, il a versé même des larmes parce qu'il a perdu un ami. Alors voilà ce que dit le Père Matteo. Je dis Béthanie parce que Nazareth est unique à travers les siècles, d'une sublimité inimitable. Tandis que Béthanie est un foyer comme le nôtre. Et en conséquence, en tout et pour tout, parfaitement imitable. Il explique, à Nazareth, pas de misère morale. Jamais un cœur malade, agonisant. Il pensait évidemment à la sainteté de cette sainte famille, justement, où le cœur était absolument pur, immaculé. Hein, celui de Marie, celui de Joseph complètement consacré, les maladies, eh bien, comme ils étaient, la Vierge Marie préservée du péché originel, elle n'a pas subi les conséquences de ce péché. Il faisait aussi appel, justement, un rappel à la maladie de Lazare, hein, en revanche, hein, à Béthanie, hein, Lazare qui était malade, agonisant, qui est mort, mais aussi les misères morales. Père Matteo pensait justement à cette Marie, hein, qu'on pense être celle qui allait devenir Marie-Madeleine, parce que libérée de ses 7 démons, libérée de ses péchés, de ses misères morales justement. Et donc du coup, voilà, Père Matteo nous invite à nous placer un peu dans la situation de ces personnes, de ces amis de Jésus, qu'il accueille chez eux à Béthanie. Hélas, combien de foyers comme Béthanie qui ont des Madeleines et des Lazares parmi leurs membres, mais aussi des prodigues et des morts. que Jésus y entre comme un parent et il y opérera des merveilles. On verra des résurrections spirituelles aussi étonnantes que celles de Lazare et des retours aussi touchants que celui de Madeleine. Mais hélas, à combien de portes Jésus-Christ est-il laissé comme un mendiant ? Dehors, quoi. S'il est reçu chez quelques-uns, souvent c'est avec gêne et défiance, comme un étranger. Ce n'est pas l'ami intime, le familier. C'est tout au plus l'hôte d'un jour. Il n'a que des miettes de tendresse, d'amitié. Lui pourtant, qui nous a aimés, qui nous aime d'un amour de folie. Oh, pourquoi l'écarter du foyer quand nous pouvons lui donner là nos meilleures marques d'amour? On a tant besoin de lui dans le sanctuaire de la famille. Oui, tout notre être a besoin de Dieu. Il n'est pas une minute de nos journées, de notre vie, où nous puissions nous passer de lui. Vous ne luttez pas, vous ne vivez pas à l'Église. Vous ne souffrez pas et vous ne mourrez pas à l'Église. C'est vrai ça. Puis moi je peux vous dire que c'est vrai. S'il vous faut un Dieu à louer dans un temple, il vous faut aussi un Dieu à prier dans vos demeures. Les païens avaient dans leur foyer les statues de leur divinité familiale. Les premiers chrétiens, eux, emportaient et conservaient dans leur maison les saints espèces. Ça veut dire le Saint-Sacrement, hein, le corps du Christ dans l'Eucharistie. Or, ce que les espèces eucharistiques étaient pour les chrétiens des premiers siècles, le Sacré-Cœur, intronisé dans la famille, le sera pour les chrétiens d'aujourd'hui. Non pas qu'on puisse assimiler l'image du Sacré-Cœur à une hostie consacrée, mais l'intronisation bien comprise apportera avec elle des grâces spéciales de présence de Dieu et de vie chrétienne avec Jésus, par Jésus, sous le regard de Jésus. Nous n'établirons jamais une relation assez étroite entre le culte du cœur de Jésus et celui de l'Eucharistie. Entre les deux tabernacles, le tabernacle eucharistique et le tabernacle familial. Tous nos efforts tendent à former, par l'intronisation vécue, des familles vraiment eucharistiques. Deux tabernacles et un seul et même Jésus, roi et ami. Alors, c'est vraiment lui le maître. Oh, ah, quand Jésus est ainsi roi d'un foyer, quand il est chez lui, il montre ce qu'il sait faire. Je vais finir la citation ici. Le Père Matthieu continue à donner des témoignages des conséquences de cet accueil de Jésus dans des foyers. Des conversions incroyables, des guérisons, des transformations inimaginables que Jésus peut opérer quand il est accueilli dans nos familles. Alors, c'est comme un encouragement pour nous aussi de nous poser vraiment cette question. Est-ce que nous voulons accueillir aussi Jésus chez nous? Donc, encore une fois, pas seulement d'une manière extérieure, visible, même dans la famille, mais profondément dans notre cœur. Quelle place est-ce qu'il a dans notre cœur? Alors, le Père Matthieu, sûrement, il s'est basé, je dirais, en faisant cette invitation, pas seulement sur l'expérience de Marguerite Marie, mais bien avant, certainement, sur ce que Jésus nous dit dans ce discours de la dernière scène, dont on a entendu des citations de nombreuses fois durant ces jours. Monseigneur Rivière nous a bien expliqué qu'en Jean 15, par exemple, C'est Jésus lui-même qui nous choisit comme des amis. Et c'est son choix absolument libre, son initiative, parce qu'il veut que nous ne soyons plus des serviteurs, mais vraiment ses amis. Mais un peu avant, au chapitre 14, Jésus lui-même dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. » Nous viendrons chez lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Alors bien sûr que chez lui, ça nous fait penser au moment de la communion, hein, eucharistique. Mais vous avez entendu, le Père Matthieu nous invite à aller plus loin que ça. Entre deux messes, où est la place de Jésus? Et d'autre part, dans cette chapelle des apparitions, comme je disais, il s'est souvenu de ce que Jésus disait un jour à Marguerite Marie quand elle a vu hein, ce cœur qui lui est apparu sur un trône de feu, un trône de flammes rayonnant de tous côtés, dit-elle, je vais la citer, et je vous invite à accueillir d'une manière nouvelle ces descriptions de ce qu'elle nous fait, ce partage de ce qu'elle a vu. Ce cœur plus brillant que le soleil et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur et une croix au-dessus. C'est comme nous le voyons un peu partout dans le monde entier. Alors, Marguerite Marie explique pourquoi il y avait ces flammes, aussi la croix et les épines, je ne vais pas tout citer maintenant, c'était pour dire qu'en fait, ce cœur de Jésus était vraiment un cœur humain et que Dieu nous a aimés avec un cœur d'homme capable de souffrir et que depuis le début de son existence terrestre, cette croix et ces épines ont été plantées dedans en fait, parce que son amour n'était pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas. Marguerite et Marie nous expliquent cela. Mais après, il dit ceci. Jésus me fit connaître ensuite que le grand désir qu'il avait d'être parfaitement aimé des hommes lui avait fait former ce dessein de leur manifester son cœur. Jésus a eu l'idée, un jour, de venir d'une manière complètement nouvelle, pour une première fois dans l'histoire, ici dans ce lieu, et montrer ce cœur humain. Voilà. Il a eu envie de nous le montrer. Ça lui a fait plaisir à lui. Vous voyez, c'est ça que Marguerite Marie nous dit. Et de leur donner, dans ces derniers siècles, ce dernier effort de son amour. Écoutez ceci, en leur proposant un objet et un moyen si propre pour les engager à l'aimer. Et à l'aimer solidement. C'est-à-dire que Jésus veut nous donner son cœur, ce symbole d'amour, comme un moyen très concret pour que nous puissions apprendre à aimer et à aimer dans la durée, d'une manière solide. Et en fait, c'est ça notre problème souvent, n'est-ce pas? Bon, on va y revenir tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus concrètement? Eh bien, à travers ce cœur, voilà. Il veut ouvrir tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contient. Il donne tout, quoi. Afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et lui procurer tout l'honneur et l'amour qui leur serait possible, fussent enrichis avec profusion des divins trésors dont il est la source féconde et inaltérable. C'est vraiment ce que nous avons fêté ici durant ces jours. On s'est mis devant cette source ouverte d'où coulent ces trésors-là. Et alors, enfin, pour maintenant donc arriver à ce que le Père Matthieu s'est souvenu dans cette chapelle en ce mois d'août 1907, Jésus qui dit à Marguerite Marie, enfin, qui lui explique quelque chose de très beau. Et Marguerite Marie dit ceci, « Jésus m'a encore assuré qu'il prenait un singulier plaisir d'être honoré sous la figure de ce cœur de chair, dont il voulait que l'image, le dessin, la représentation, comme une statue, comme une icône, comme un vitrail, peu importe, l'image fut exposée en public. En public. Pas que dans les célébrations de l'Église, mais justement, en public, c'est-à-dire de manière visible aussi dans nos maisons à nous. Afin, ajouta-t-il, de toucher le cœur insensible des hommes. Me promettant qu'il répandrait avec abondance sur le cœur de tous ceux qui l'honoreront tous les trésors de grâce dont il est rempli. Et que, partout où cette image serait exposée, pour y être singulièrement honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Et c'est là que le Père Matthieu s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Proposer à tous ces foyers qui souvent sont divisés, meurtris, blessés, eh bien, leur donner ce cœur de Jésus qui est le remède, en fait. Et en plus, Jésus lui-même promet toutes sortes de bénédictions. Donc lui, il va faire tout ce qu'il faut dès qu'on le laisse régner, quoi, prendre sa première place chez nous. Et donc, il est parti, comme il dit, en conquête du monde entier, en se disant, Jésus veut conquérir le monde à son amour, foyer par foyer, maison par maison. Alors que peut-être il est venu ici très gravement malade en pensant à mourir, eh ben, il n'est pas mort en 1907, hein, mais en 1960. Il a parcouru le monde entier avec ses frères religieux. Ils ont pu proposer cette intronisation, on dit à peu près à 1 million de familles, hein, jusqu'à la fin de sa vie sur les 5 continents. Une pratique qui continue encore aujourd'hui. Donc nous vous proposons aussi de regarder cela si vous êtes attiré, hein, vers cette démarche, intronisation du Sacré-Cœur, en passant à l'accueil quand vous avez le temps ou en appelant les sanctuaires pour avoir des informations là-dessus. Il y a aussi parmi nous-mêmes une famille, un couple qui s'est rendu disponible à vous rendre des informations et des explications très concrètes sur la façon dont cela peut se faire. Il s'agit d'une célébration public, avec un prêtre, et le Père Matthieu décrit très bien qu'est-ce qu'il faut faire, comment se préparer, et tout ça, à accueillir Jésus chez nous pour l'honorer, le vénérer, et devenir ainsi des instruments de cet amour pour tous ceux qui vivent dans la maison, et ceux qui y passent d'ailleurs, hein, de l'extérieur. Alors, voilà une conséquence concrète, une décision simple que nous pouvons prendre pour choisir Jésus comme l'ami de notre cœur, de notre famille aussi. Alors, hier, ceux qui ont passé l'après-midi ici, vous avez eu l'occasion de parcourir ce petit trajet proposé dans le jardin ici, en passant quelques étapes, pour entrer dans cette amitié de Jésus qui nous appelle « Je vous appelle mes amis » en suivant le petit feuillet qui vous a été proposé. Alors, il y a là-dedans 5 étapes que nous pouvons parcourir très simplement, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre. Découvrir l'ami qui est Jésus, rester avec lui, le soutenir, se souvenir de son amour et se ressourcer auprès de lui. Alors, je vais reprendre un peu ces points, mais d'une manière différente, plutôt avec l'aide cette fois-ci, pas seulement de Marguerite Marie, mais de quelqu'un que Jésus lui a envoyé comme guide, qui s'appelle comment ? Ben, vous le connaissez tous, et Jésus a dit de lui qu'il est son fidèle serviteur et parfait ami. Je me suis dit que c'est bien de le laisser lui nous proposer quelques points, quelques moyens très concrets, très simples, mais plutôt je dirais de nous donner des raisons de choisir Jésus comme notre véritable et seul ami. C'est pourquoi vous avez reçu cette prière qu'il nous a laissée. Vous avez un petit feuillet que je vous propose de prendre maintenant. Et nous allons paisiblement le lire ensemble. Et je vais vous inviter à retenir quelques points comme ça qui pourront nous aider. Mais j'en ai trouvé 5 raisons pour lesquelles Claude lui-même choisit Jésus comme ami. Mais pour vous expliquer un peu le contexte de cette prière, il s'agit en fait d'une réflexion, d'une sorte de méditation qu'il nous a laissée. Et cette prière se trouve vers la fin de ces pages qui sont superbes. Alors, il réfléchit sur l'amitié en général. Et il découvre quand même que dans notre vie courante, dans son expérience bien sûr, mais chacun de nous peut le faire exactement cette expérience, on est quand même déçu souvent des amitiés humaines, n'est-ce pas? On le sait. Et alors, Saint-Claude, avant cette prière et juste après aussi, elle fait référence à des pères de l'Église, surtout à Saint-Jérôme, que je vais citer tout de suite, mais aussi à l'Écriture. Alors, je me permets de lire, par exemple, un petit passage que Saint-Jérôme explique un peu dans ses écrits. Et cela a donné aussi à Claude l'occasion de se rendre compte à quel point il est vraiment important de se poser la question sérieusement sur le choix de nos amis. Alors, je vais vous lire cela pour comprendre pourquoi c'est important, finalement, de nous tourner vers celui seul qui ne décevra jamais notre cœur. Au livre de Michée, vous pouvez noter ça, ce serait intéressant de le reprendre, chapitre 7, du verset 5 à 7. Le prophète nous dit ceci, « Ne vous fiez pas à un ami. » Ne vous reposez pas sur celui qui vous gouverne. Tenez fermée la porte de votre bouche, même à celle qui dort sur votre sein. C'est un peu violent. Car le fils traite son père avec outrage. La fille s'élève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère, et l'homme a pour ennemi ceux de sa propre maison. Mais pour moi, je jetterai les yeux sur le Seigneur. J'attendrai Dieu, mon Sauveur, et mon Dieu m'écoutera. Eh bien, ce n'est pas une invitation à refuser toute amitié humaine. Ce n'est pas un encouragement à nous isoler complètement et à ne plus jamais chercher des amitiés. Non. Mais il s'agit de voir les critères aussi de discernement. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer ces 5 points que nous pouvons trouver dans la prière de Saint-Claude, qui nous aident donc d'une part à choisir Jésus comme ami, mais aussi qui vont nous aider à réfléchir aussi sur nos amitiés que nous pouvons rencontrer, dont nous avons sûrement besoin dans notre vie. Alors, premier point, Saint-Claude nous parle de la confiance. Il dit, Jésus, vous êtes le seul et véritable ami, vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez. Vous savez le secret de me les tourner en bien. Et là, c'est un rappel en fait de cette grande prière qui nous a laissé, la prière de confiance, où il dit ceci. Toi, Seigneur, tu prends soin de moi, et bien je viens me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Et bien, dans vos carnets de vos livrets de chant, vous avez cette prière de confiance qu'on pourra prendre tout à l'heure. Et bien, Saint-Claude a découvert quoi? Et bien que ce Jésus, qui est le seul et véritable ami, et bien lui seul est capable, vraiment, et bien de jamais nous tromper en fait. De prendre sous lui tous nos maux, tous mes maux à moi, et m'ont délivré. Alors, bien sûr que cette première raison hein, de le choisir comme ami est fondé, en fait, hein, sur le don total que Jésus a fait de lui-même. Hein. Et il le dit dans ce même chapitre de l'évangile de Saint Jean 15, « Personne n'a un amour plus grand que de donner sa vie pour donner sa vie. Qui a pu donner sa vie pour moi, autre que Jésus ?» La personne. Hein. Et pourquoi il a donné sa vie ? Eh bien, c'est une question justement de vie et de mort, quoi. Hein, pour m'arracher, moi, à la mort. Et donc, Saint-Claude comprend ça, que Jésus est venu me sauver, nous sauver, une fois pour toutes. Eh bien, ça vaut vraiment la peine de lui faire confiance. Et non pas seulement il a fait dans le passé, mais encore aujourd'hui, il veut me libérer, voilà, de tous mes maux, de tout le mal que je peux faire, me purifier, me soulager. Encore aujourd'hui, il peut me délivrer de toutes mes inquiétudes. Est-ce que vous croyez ça? Bon, merci de répondre comme vous pouvez, mais merci de prendre le temps de vous tourner vraiment vers le Seigneur en lui faisant cet acte de confiance totale. Et ensuite, Saint-Claude continue, hein, c'est cette description, hein, de la raison pour laquelle il veut choisir Jésus comme son seul et véritable ami. Il dit, « Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions. » Eh bien, un peu plus tard, il dit, « Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre. » Ben oui, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. C'est une des définitions de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut absolument tout raconter. Mais il faut aller jusqu'au bout avec cette définition. Il est aussi celui avec qui l'on peut rester silencieux. Parce qu'il y a des cas où on sent le besoin de trouver quelqu'un, hein, pour lui parler, quoi. Lui parler de tout. Et blablabla, 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 des heures et des heures et des heures et des heures. Non, ça vous arrive parfois? Non? Ben moi, ça m'est arrivé. Hein. Et alors, bon, ben, on écoute. Hein. On écoute, mais humainement parlant, à un moment donné, on en a un peu marre. Hein. Eh bien, si vous comprenez ça, eh bien, vous pouvez faire une comparaison avec Jésus. Mais lui, il n'en a jamais marre. Vous pouvez passer des heures avec lui. Il ne va pas vous dire, arrête, tu m'embêtes. Arrête, j'ai d'autres choses à faire. Arrête, j'ai déjà entendu ça. C'est la cinquième fois que tu me racontes la même chose. Jésus ne fait pas ça. Hein. Vous pouvez lui raconter la centième fois les mêmes choses. Voilà, ben, voilà ce que Saint-Claude a compris. Vous m'écoutez, hein, toujours, et alors il rajoute quelque chose de très, très, très simple, très fort. Vous m'écoutez avec bonté, parce qu'il peut nous arriver d'avoir un peu de patience et écouter quelqu'un qui nous embête, enfin, je veux dire, qui nous ennuie, mais on dit quand est-ce qu'il va finir, quoi. Donc on n'écoute pas avec bienveillance. Alors que Jésus, non pas seulement il nous écoute longuement, mais avec un cœur plein de bonté. C'est son cœur qui est ouvert sans cesse pour nous accueillir. Et Saint-Claude, eh bien, nous invite vraiment à vraiment ouvrir totalement notre cœur, et particulièrement, justement, si on a le moyen d'avoir cette image chez nous-mêmes, eh bien, notre temps de prière, cela a sûrement été dit plusieurs fois, je pense, aussi par le Père Christophe aussi, qui nous a invités à entrer dans ce dialogue avec le Seigneur, mais oui, en effet, on peut parler, dialoguer avec lui. Réellement, quoi. Hein? Eh bien, une image de cœur de Jésus peut nous aider à cela. Nous rappeler que voilà, il est toujours là, quoi, pour écouter. Avec son cœur ouvert, qui accueille mon cœur ouvert aussi. Mon cœur blessé, sûrement. Alors, bien sûr que ces cinq points que je vais souligner dans cette prière de Saint-Claude se rejoignent, sont liés les uns aux autres, sont des nuances plutôt. Mais voilà, je passe au deuxième point. Donc, premier, c'était la confiance. Deuxième, Saint-Claude parle de la disponibilité. Je vous trouve toujours et en tout lieu. Vous ne vous éloignez jamais. Et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Eh bien, Saint-Claude comprend qu'en fait, ce Jésus, parce qu'il est Dieu, eh bien, il est toujours là, quoi. Il ne peut jamais nous quitter. Et ce que nous faisons comme expérience souvent, c'est que dans nos douleurs et nos souffrances, on peut se dire, Dieu est absent. Dieu m'a oublié. Il m'a envoyé des malheurs et il a foutu le camp. En disant, je vais voir comment tu te débrouilles. Il y a une idée comme ça dans la tête de beaucoup. Hein. Alors évidemment que parfois, ce sont des souffrances, vraiment des drames quoi, qu'on peut vivre. Hein, et qu'on a du mal à prier. Ça m'est arrivé, par exemple, d'être parfois hospitalisé parce que je me suis fracturé les mains, les jambes, enfin, les bras et tout, par exemple. Alors, sur un lit d'hôpital, je me disais, c'est génial, j'aurai tout le temps à prier, quoi. Tu parles. Tu ne peux pas te concentrer. Enfin, moi, personnellement, j'avais du mal. Hein. Alors, je me suis dit, mais mince, mes 3 jours d'hôpital, ben, ce n'était pas la prière. Hein. Ben oui, ben, c'est comme ça. Et cependant, le Seigneur est là toujours, disponible. Et alors, j'ai compris que je devais lui offrir tout paisiblement, voilà, ces douleurs-là que j'avais. Voilà. Et surtout, là, l'infirmière qui venait tous les 2 heures me réveiller pour me demander, ça va bien ? Mais laissez-moi tranquille, j'ai envie de dormir. Enfin bref, bon, le Seigneur, je te les confie, ces infirmières qui m'ont soigné. Eh bien, Saint-Claude découvre en fait cette présence du Seigneur en tout lieu à partir d'une expérience toute simple. Il était à Lyon avant de venir ici à Paray-Monial. Et là, en tant que prédicateur, professeur aussi, ben, il avait beaucoup d'amis, grand succès dans la prédication. On peut dire sa mondanité, quoi, parce que voilà, il voyait les gens de tous les côtés, il avait beaucoup, beaucoup d'amis, quoi. Et quand il finit cette année hein, de discernement, et puis quand il doit faire la profession solennelle, donc au début de 1675, Marguerite Marie avait déjà eu les 2 grandes premières apparitions. Hein. Alors il se dit, Claude, eh bien, je vais quand même finir ma mission ici. Donc peut-être que je vais être envoyé ailleurs. Du coup, conclusion, ben, je dois quitter mes amis, en fait. Je ne vais plus le voir parce que je vais partir ailleurs. Et c'est là qu'il se dit, ben, Seigneur, ben, tu me demandes de faire un sacrifice, d'abandonner tous ces amis-là. Eh bien, je vais le faire pour toi. Mais tu sais, hein, ça va me coûter plus que le sacrifice que j'ai dû faire le jour où j'ai quitté ma famille. Il écrit ça. Hein. Et alors il dit, bah, écoute, je voudrais te demander une chose, sois toi-même leur ami. Et en sens inverse, eh bien, je te choisis, toi, comme le mien. Et je sais que je vais te trouver toujours, en tout lieu où je vais, et même si je suis obligé de changer de demeure, vous voyez le contexte, eh bien, je ne dois pas m'inquiéter parce que je vais te trouver partout. Tu seras toujours disponible. Et là, il y a quelque chose de très beau, cela. C'est une occasion de faire aussi un acte de foi, bien sûr, en pensant que le Seigneur est réellement présent avec nous à tout instant, en fait, hein, à chaque endroit. Nous pensons et nous parlons bien sûr de la présence réelle dans l'Eucharistie, mais il ne s'agit pas de penser que Jésus n'est pas réellement présent chez nous, hein, dans notre maison. Hein. Non, c'est le même, hein, qu'il est là. Hein. La différence, c'est quoi? C'est qu'ici, dans l'Eucharistie, il a une présence substantielle. Mais il est présent ailleurs aussi. Il est présent dans la parole de Dieu, il est présent dans le cœur de nos frères et sœurs. Eh bien, essayons de découvrir cette présence de cet ami qui est toujours avec nous. Alors, Il y a aussi un critère aussi de discernement comme ça, hein, que nous pouvons découvrir ici. Il y a certains qui s'appellent Simon Sinek qui disent cela. Les liens amicaux forts ne sont pas toujours une équation équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un donnant-donnant, quoi. Surtout avec Jésus. L'amitié n'est pas toujours tout donner et tout prendre à part égale. Au contraire, l'amitié repose sur un sentiment où vous savez exactement qui sera là pour vous lorsque vous avez besoin de quelque chose, n'importe quoi ou n'importe quand. Eh bien, Jésus répond à ces critères. Il est là toujours, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, de n'importe quoi, et il est là n'importe quand. Une disponibilité permanente. Une vraie raison de le choisir, hein, parce que peut-être que nos meilleurs amis eh bien, sont pas quand même toujours disponibles. Troisième raison, c'est le soutien que le Seigneur peut nous accorder. Saint Claude dit ceci, « Vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens. Et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. » Eh bien, il s'agit de ces trésors hein, qui coulent, qui sortent du cœur de Jésus dont je parlais tout à l'heure et dont Sainte Marguerite Marie est consciente, évidemment, aidée par Claude, ben, tous les deux, en fait, ils ont compris que ce trésor, c'est vraiment un héritage extraordinaire qui est offert pour tous. Et Jésus est clair, hein, il ne veut rien garder pour lui. Donc, il y a vraiment là une véritable raison aussi à le choisir, parce que nous savons qu'il peut tout nous donner. Il peut partager tous ses biens avec nous. Et souvent, nous, on a l'impression qu'il veut nous cacher des choses. Qu'il voudrait nous donner, mais pas tout, quoi. Et surtout quand on prie et qu'on n'est pas exaucé, on se dit, mince, il n'a pas écouté ma prière. Il ne m'a pas donné ce que moi, j'ai voulu. Mais est-ce qu'on lui a demandé, à lui, qu'est-ce que lui voulait nous donner? Qu'il a déjà préparé, hein, et que peut-être, justement, nous, on ne demande pas. On est préoccupé par d'autres trucs, là. Mais qu'est-ce que lui veut nous faire comme cadeau? Eh bien, dans une amitié, c'est important, voilà, avec Jésus de le demander, mais finalement, Jésus, je te demande plein de choses, je te fais une liste, là, comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu as dans tes poches quand tu viens me voir? Tu as des cadeaux, des bonbons, peut-être, ou des bijoux, hein, des objets de valeur, un amour énorme que tu veux me donner. Des grâces dont j'ai besoin maintenant et que je ne vois pas, quoi. Et on a eu dans la louange de tout à l'heure aussi, eh bien, ces invitations à nous laisser vraiment surprendre par lui. Au-dessous de la chasse de Marguerite Marie, il y a une phrase tout en grand comme ça. Vous savez ce que c'est écrit? Merci Paul, merci. Vous qui ne voyez même pas de loin, vous avez quand même pu lire ça. C'est extraordinaire. Je te constitue héritière de mon cœur. Jésus nous laisse un héritage. Et c'est quoi l'héritage? Ah, c'est un sujet délicat. Je comprends. On ne va pas parler maintenant du partage ici. Voilà. Mais c'est un exemple pour nous rendre compte de ce désir du cœur de Jésus de venir à notre aide, à notre soutien, pas seulement un peu ou à moitié, mais totalement, quoi. L'héritage, c'est toute la vie de Dieu, tout son amour. Et on a eu une parole aussi qui disait, il nous invitait à répéter souvent la prière du cœur, là. Vous vous rappelez, hier matin, Jésus, les fleuves, vous ne vous rappelez pas? Plus fort, plus fort. Jésus, fleuve de vie et de lumière, prends pitié de nous. Fleuve qui coule sans cesse. Et dans la prière, à la messe du Sacré-Cœur, et on a bien cela justement dans la prière eucharistique, vous puiserez des eaux aux sources vives du salut. Eh bien, n'oublions jamais que ce cœur de Jésus à jamais ouvert restera pour toujours avec, pour nous, voilà, cette source de toute grâce. Et il y a aussi un peu dans la même prière, Saint Claude qui dit, ben Jésus, tu ne manques jamais d'adoucir mes afflictions. Eh bien, il y a bien sûr le côté positif, il nous remplit de ses grâces, mais là, encore une fois, justement, au moment où on a les plus grands soucis de notre vie, eh bien, le Seigneur peut venir nous en délivrer totalement. N'oublions jamais cela. Sa puissance est infinie, hein, et son amour aussi. Alors, Saint-Claude le dit un peu avant cette prière, nous trouvons en Jésus-Christ tous les trésors de la science de Dieu, toute la béatitude de Dieu. Nous y trouvons la divinité même. Voilà les biens qu'il veut nous donner. Alors, je passe maintenant au quatrième point. Saint-Claude nous dit ceci, enfin, il prie cela devant Jésus, « Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même, ne m'enlèvera point votre amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement. Vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. » J'ai fait déjà une petite explication là-dessus tout à l'heure, mais là, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette présence permanente du Seigneur dans la fidélité. Ce que nous cherchons souvent, hein, c'est solidité, voilà, de la relation. Donc quand nous allons choisir Jésus comme notre ami, eh bien nous allons trouver en lui quelqu'un qui va nous donner aussi, nous communiquer aussi cette fidélité à nous. Et là, je pense que c'est un des points, je pense, le plus fort en fait, la raison peut-être la plus forte, hein, de choisir lui comme un ami. Alors, Saint-Claude cite juste après cette prière Saint-Jérôme qui disait « Un ami, on le cherche longtemps, on le trouve avec peine, on le conserve difficilement. » Je répète, on le cherche longtemps, on le trouve avec peine, on le conserve difficilement. Eh bien, avec Jésus, justement, ben nous n'aurons pas beaucoup de peine. Et puis encore, Saint Jérôme dit ceci, « Une amitié qui peut cesser n'a jamais été véritable. » Ça, je peux vous dire que c'est tout à fait cela. « Une amitié qui peut cesser n'a jamais été véritable. » Et Claude lui-même, en lisant Saint Jérôme, il fait aussi ses propres réflexions en regardant un peu autour de lui. Et puis, il dit, ces amitiés que le libertinage ou la débauche a liées ne sont jamais de durée. Elles sont sujettes à mille ruptures, à mille éclats ridicules, à mille querelles sanglantes. Ça tient pas, en fait. Une amitié superficielle ne dure pas. Peu de gens goûtent la douceur de l'amitié parce que on s'attache à des amis qui n'en sont pas capables, qui sont occupés de passion, remplis de désirs vains et ardents, qui sont attachés à leurs sentiments et à leurs intérêts, qui ne cherchent que la gloire et la réputation, qui sont prêts de tout sacrifier au moindre intérêt ou de vanité ou d'avarice. » Ben, c'est un peu triste, mais ça peut nous arriver d'être déçu par un ami, de nous laisser tomber justement au moment peut-être le plus important de notre vie. Alors que Jésus ne fait pas ça. Et Saint Claude, justement, il dit, voilà, il finit cette méditation en disant, où est-ce qu'on peut trouver des gens qui aient toutes ces qualités? Et c'est là qu'il commence à dire, Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Voilà, je me suis permis de le citer pour comprendre le contexte dans lequel il a fait cette prière. Il se tourne vers le Seigneur d'une manière vraiment personnelle et profonde. Et concernant justement le fait que, eh bien, on conserve difficilement un ami. Et Saint Claude explique encore, cela n'est vrai que parce qu'on n'a pas de bons amis, car ces amis délicats qui se rebutent de la moindre chose, qui exigent des assiduités et une régularité incommode, quelques qualités qu'ils aient d'ailleurs, sont des gens qui s'aiment beaucoup eux-mêmes et qui n'ont point de véritable amitié. Mais Jésus-Christ se trouve aisément partout et il est aisé de le conserver. Ouais, c'est comme une réponse à ce que Saint Jérôme dit. On le cherche longtemps, eh bien Jésus, non, parce qu'on, ben, il est là, quoi. On le trouve avec peine, un ami, c'est vrai, mais Jésus, eh bien, il est là, il est là. On le conserve difficilement, en général, parmi les hommes, un ami. Mais pas Jésus, parce qu'il est aisé de le conserver, dit Saint Claude. Eh bien, choisissons-le, parce qu'il restera d'une manière stable avec nous. Et alors, enfin, cinquième point que nous pouvons trouver dans cette prière, c'est la miséricorde. Saint Claude parle de la patience. Il dit ceci, « Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable, mes infidélités même avec et mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêts à revenir si je veux. » Je résume ça avec le mot miséricorde. Les amis en général peuvent nous pardonner beaucoup, mais pas tout. Pas tout. Or, Jésus peut tout pardonner. Sa patience est admirable. Et il est là toujours prêt à nous accueillir, à nous redonner le pardon si besoin est, chaque fois quand on vient vers lui. Et enfin, il nous aide toujours à faire un pas en avant. La miséricorde du cœur de Jésus, nous l'avons pu expérimenter. Nous avons pu expérimenter cela ici. Eh bien, ne se lasse jamais de nous pardonner, comme le dit le pape François. Vous savez qu'il nous donne toujours un élan nouveau, quoi. Et pas seulement au niveau de la confession, mais en toutes les expériences que nous faisons près de lui, on voit bien comment Jésus nous invite à avancer en nous disant « vas-y ». Nous lui faisons confiance, mais lui aussi, il nous dit « j'ai confiance en toi ». J'ai confiance en toi. Tu peux plus que, voilà, que tes péchés, quoi. Et tu n'es pas réduit à tes fautes, à tes faiblesses. Il y a quelque chose en toi de beaucoup plus beau, beaucoup plus fort. Pense aussi à cela. Voilà la parole d'un ami véritable, miséricordieux. Voilà, je vais vous laisser bien sûr relire cette prière paisiblement chez vous, tout à l'heure ou dans les jours qui viennent. Mais je vais conclure avec le fruit de ce choix au moment où nous allons prendre Jésus comme notre ami. Il y en a sûrement plusieurs, mais je crois que le plus beau, c'est la joie véritable. Et dans le chapitre 3 de Saint Jean, il y a c'est Jean-Baptiste qui parle à un moment donné, quand il doit donner des explications à ceux qui viennent le voir, et il dit à un moment donné, au verset 29, donc Jean 3, 29, « Qui a l'épouse et l'époux ?» Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire Jésus, c'est Jésus qui est l'époux, hein, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Saint Jean-Baptiste qui se sent vraiment un ami de Jésus, pour lequel d'ailleurs il a donné sa propre vie un jour, à travers son témoignage à la vérité. Et ces paroles nous renvoient aussi à ce contexte où Jésus dit « Je vous ai choisi comme mes amis », au chapitre 15, toujours Saint Jean, mais un peu avant, au verset 10, il dit ceci « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez à mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. » Et écoutez ceci « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Complète. Peut-être que nous cherchons près de Jésus un peu de consolation, un peu de lumière, qu'on reçoit au moins une petite grâce à la fin de ce jour de fête. Eh bien, je pense que le Seigneur nous invite à travers ses paroles et à travers ce choix de l'amitié que nous faisons, de ne pas nous contenter de peu avec lui. On a bien compris que c'est la source de toute grâce. Mais considérons cette joie-là, qui vient de lui, qui n'est pas seulement une décision de notre part, eh bien, elle peut remplir notre cœur. Et dans quelle situation que nous soyons, eh bien, avoir cette conscience que cet ami-là, de confiance, toujours disponible, qui nous soutient en toutes circonstances, qui est en permanence avec nous, fidèle, et qui est miséricordieux, eh bien, il va toujours remplir, alimenter notre cœur de cette joie. Eh bien, nous allons invoquer maintenant l'Esprit Saint, justement, qui jaillit de ce cœur de Jésus, qui nous aide à faire ce choix, ce pas, avant de peut-être partir ici, à travers peut-être une prière de consécration sous le dos de cette prière de Saint-Claude à Jésus, le véritable ami. Vous avez aussi l'acte de consécration de Saint-Claude. Mais bon, vous pouvez en choisir un autre, si vous voulez, un acte de consécration peut-être plus simple, plus personnel. Mais l'important, c'est de faire ce choix sous forme d'un abandon de notre cœur, de notre vie, de notre foyer à ce cœur de Jésus brûlant d'amour. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Je vous remercie.